Hey, bonne nouvelle, la gang. Les entreprises Vapking sont maintenant réouvertes. Oui, oui, vous pouvez aller voir la gang de Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald. Notez que Vapking respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, simplement nous téléphoner au 418-903-8282. Allez donc voir mes amis de chez Vapking, parce qu'ils se sont bien ennuyés de vous autres.
CJMD 96.9.
16h21, on va aller de belle façon vers nos amis Michel Gamache et Jean-Marc Couture pour parler de trap. Bienvenue dans les salles des nouvelles, messieurs. Merci d'être là.
Oui, bonjour.
Salut.
Salutations. On commence avec un petit retour sur le passé. On en a déjà parlé un peu dans la chronique, mais pour faire dédramatiser, pour faire mieux comprendre la trappe aux gens, pensons à ce qui se produit en termes de population animale dans l'histoire du Québec. On n'est pas nécessairement moins bien loti que même en 1534 avec Jacques Cartier.
Non, quand je... comparé à ce qu'il y avait comme population à ce moment-là, aujourd'hui, il y a plus d'animaux à fourrure, comme il y a plus d'autres sortes d'animaux aussi, quand on parle des gros gibiers, okay. Chevreuil orignal.
Ah oui, orignal aussi.
Oui.
Ah bon?
Puis, il y a, dans le cas des animaux à fourrure, c'est devenu des surpopulations dans certains cas. Bon. Puis, les deux bons exemples de ça, c'est le raton laveur et le castor.
Le castor? Ah ouais. Ça, c'est impressionnant à entendre parce qu'on sait qu'il y a eu des siècles entiers où l'article de mode par de prédilection de par le monde, c'était le fameux chapeau de castor, puis ça venait bien souvent d'ici.
Bien, ça venait d'ici. On a, du port de Québec seulement, dans les 100 ans du meilleur temps du commerce, il y a eu 25 millions de pots de castor qui ont été expédiés en France.
Rien que ça.
Puis aujourd'hui, il y a plus de castors qu'il n'y en a jamais eu encore.
C'est incroyable. Puis ça, c'est à cause de l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est vraiment ça? La coupe forestière?
Oui.
Puis la déforestation. Et les ruisseaux, là, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'aller jusqu'au bord du ruisseau. Il faut qu'ils laissent pousser une bande de bois.
OK.
La première bande de bois qui pousse, c'est quoi? Les ondes et le tremble. Le tremble, c'est la nourriture parfaite du castor.
Carrément, ils mangent ça, là. Ils l'ingèrent puis ils digèrent ça.
L'écorce, ils mangent l'écorce.
OK, OK. Même que j'ai lu, je suis tombé sur un livre de Paul Provencher que vous devez connaître, là. Je me suis dévoré ça récemment. Puis lui, il attirait, c'était carrément un appât, là, un bout de tremble, un jeune tremble là, frais. Il mettait ça dans une petite clôture pour aligner le castor à bonne place, puis il en attrapait avec carrément rien qu'une branche de tremble. Okay.
Parce que l'hiver, quand tu veux attraper le castor, tu fais un trou dans la glace, tu descends ton piège, puis tu mets du tremble dedans. Le tremble, eux autres qui ont mis, il est sûr. Lui, il est frais.
C'est ça.
Pour le point, c'est facile.
Exact. Fait que c'est comme de la belle nourriture fraîche pour lui. Là, on dit la situation pour bien des animaux est meilleure. Le caribou, ça, j'ai l'impression que ça a pu partir de la colonisation. Est-ce qu'il y a d'autres espèces ou sinon c'est généralisé que pas mal toutes les espèces vont mieux? Il y en a plus, sont plus abondantes qu'au 16e siècle, carrément.
La majorité sont plus abondantes. Puis dans le cas des animaux à fourrure, les seuls qui sont disparus ou presque... Il y a le carcajou, qui est le glouton, là.
Ouais.
Ça, on ne peut plus au Québec.
Ça, c'est une bonne affaire, par exemple. Tu ne veux pas tomber là-dessus. Avez-vous déjà... sûrement pas, là. Ça fait longtemps que ça n'existe plus bien dans la vallée du Saint-Laurent, mais avez-vous une histoire de carcajou, vous autres? Parce que je sais tu veux pas croiser ça.
Le dernier a été attrapé dans les années 70, dans le coin de... Dans la Naudière, là.
Ah, ouais.
Mais puis il y a le cougar qui est disparu aussi.
Ouais.
Il y avait du cougar au Québec au début des années 1900. Mm-hmm. Lui, il est complètement disparu aussi.
Bon.
Par contre, il y a des espèces qui n'étaient pas là, qui sont apparues, qu'on n'avait pas auparavant. C'est par exemple le lynx roux.
Ouais.
On a maintenant le droit de trapper le lynx roux depuis 5-6 ans.
OK.
Ça, c'est un nouveau venu qui est venu des États-Unis.
Ah bon?
Il y a le coyote qui n'existait pas.
Ouais.
Le coyote, il y en a partout aujourd'hui en quantité industrielle.
C'est ça.
Lui, il n'existait pas, là. Il est venu de l'ouest, de l'ouest du Canada puis des États-Unis.
Mais ça, on a le droit de l'attraper parce que ça fait des ravages, ça fait des dommages. Puis justement, on voulait parler de déprédation. La saison de trappe est pas mal terminée, mais il y a des occasions pour les trappeurs d'aider à ce que dans certains milieux, on puisse réduire un peu la proportion de prédateurs. Vous travaillez là-dessus des deux un peu?
Exactement. Déprédation, c'est trapper hein, quand c'est pas le temps normal du trappage, quand la fourrure n'a pas de valeur. Les saisons de trappage, c'est d'octobre à mars.
C'est ça.
Donc, à ce temps-ci de l'année, quand les gens sont pris avec des bouffettes, des ratons laveurs,
ouais.
Ou des castors sur le terre à bois.
Ou des marmottes.
Puis,
des marmottes aussi, vous faites ça, ah ouais?
Oui.
OK.
Oui.
Ah, ça, il y en a. Jeudi, en m'en retournant, j'ai vu 3 marmottes mortes sur le chemin. Ça doit être la saison qui sont plus aventurières drette en ce moment, eux autres.
Hein? Ben, il y a un petit bout de temps, c'était la période d'accouplement.
Ouais.
Puis là, ben, c'est la période, les jeunes commencent à sortir, à croyer.
Okay.
Fait que on a des téléphones aussi que les jeunes nous appellent et qu'ils voient apparaître des marmottes en dessous de galeries.
Comment ça peut coûter, mettons, on veut vous faire intervenir? Là, je sais que vous ne faites pas ça pour la publicité, mais tant qu'à ça, pourquoi pas? Ça ne court pas les rues des trappeurs compétents. J'ai une marmotte, j'ai une moufette. On s'arrange comment à peu près, là, côté rémunération?
Bien, chaque trappeur est indépendant. Il n'y a pas de règle de base, il n'y a pas de livre de prix, il n'y a pas de liste de prix. Par contre, nous autres, dans notre cas, là, ça joue dans l'ordre de 150$ pour aller capturer un raton laveur, par exemple, dans l'entretoit de la maison. Là.
Puis on peut-tu s'arranger pour que vous... Parce que là, les petites madames, je regarde Laurie, elle voudrait qu'il soit vivant.
Oui. Oui, s'il vous plaît.
On peut-tu vous demander ça? C'est plus cher?
Ben, la différence avec le trappage, la déprédation, on utilise presque tout le temps des trappes à capture vivante.
Ah, OK.
Bon. Fait qu'on les capture vivants, puis on les déménage en forêt.
Parce que, anyway, la fourrure vaudrait pas cher. La fourrure qu'on cherche, c'est celle plus garnie d'hiver.
Elle n'est pas bonne, puis on n'a même pas le droit de la récupérer.
Ah, ouais, OK. C'était ma prochaine question. Je me disais, tu sais, peut-être qu'il y en a qui ça peut déranger un peu moins, mais t'as même pas le droit.
Ben, c'est même poussé à l'extrême. Par exemple, quelqu'un nous demande d'aller capturer un ours qui est en train de manger son maïs.
Ouais.
D'après le règlement, on est obligé de le laisser pourrir sur place.
Hein?
On récupère même pas la viande pour te donner. Là.
Ah, ça, c'est
terrible. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait de l'abus. Ils ont peur que ça serve de prétexte. Parce que ceux qui ont des fermes de maïs, ils savent très bien ouais. S'il y a un ours dans leur champ, qu'ils peuvent l'abattre.
OK.
Mais si on permettait de les vendre en plus, ben ça risquerait de causer des abus. Mais c'est un peu un non-sens entre moi et toi.
Ben là, en plus, la population d'ours au Québec, on s'entend qu'il n'y a pas trop de problèmes là non plus. On vient de le dire, généralement, les populations, en gros, sont meilleures qu'avant.
Ben oui.
En plus, l'ours, le cheptel est très beau. C'est plusieurs dizaines de milliers de bêtes, de ce que, il me semble, j'ai déjà lu.
Les ours au Québec, il y en a à peu près 80 000.
Okay.
On en capture à peu près 5 000 par année.
Ouais.
Donc, c'est pas assez pour empêcher la population d'augmenter.
Bien, certainement pas. Vous intervenez aussi des fois pour des maladies, là, la rage, tout le monde connaît ça. Je voyais la tularémie, ça, j'ai aucune idée. La gale, les tiques, ça, j'en ai pas ni une. Dans mon lit!
Non!
Récemment. Fait que je peux-tu vous engager pour pogner mon chien? Non, mais c'est mon chien qui avait ramené ça. Parlons des maladies qui peuvent affecter les populations d'animaux puis que vous aidez à juguler.
Ben, parlons de la tique, entre autres, parce que la tique, c'est probablement celle qui affecte le plus le monde en général. Tu l'as dit, les lièvres peuvent avoir ça, les robuchés.
Arrêtons de l'avoir aussi.
Par contre, la tique, c'est rendu que tout le monde qui va se promener en forêt sont susceptibles de revenir chez eux le soir avec des tiques qu'ils ont piquées.
Ouais.
Puis d'avoir la maladie de Lyme qui est très grave. Là. C'est pas bénin.
C'est difficile à diagnostiquer aussi. Souvent, les médecins vont se perdre en conjoncture. Ça peut prendre des années avant qu'on détermine. Puis les traitements sont pas évidents non plus. Fait que, ouais, faut éviter ça. Fait que, mettons, il y a une épidémie de tiques dans une zone, ils vont vous envoyer pour pogner certains types d'animaux?
Ben, l'épidémie de ça vient d'une surpopulation d'animaux. Tu sais, comme on a vu, les chevreuils à Longueuil, là, sont plein de tiques, eux autres aussi. Là. C'est le cas des ratons laveurs, c'est le cas des écureuils gris, c'est le cas d'un paquet d'animaux, parce que les tiques sautent d'un animal à l'autre, puis ils finissent par tomber sur un humain pour aller piquer son sang. Là. C'est là qu'ils transmettent la maladie de Lyme.
Exact. Jean-Marc a dit quelque chose, je pense qu'on l'a manqué. Qu'est-ce que tu as dit, Jean-Marc?
Même l'orignal, le tic, il passe après les branches, puis les œufs vont coller dans les branches.
Ah.
Quand il repasse, ben, il repogne en passant, puis il se développe en buvant le sang de l'orignal, du chevreuil.
C'est ça les problèmes qu'il y a eu dans le coin de la frontière américaine qui a fait qu'ils ont arrêté la chasse un bout de temps? C'est-tu bien ces tics-là?
Ben, ce qu'il y a eu près de la frontière américaine, c'est une campagne du gouvernement du Québec pour empêcher la rage de s'en venir à Montréal. Parce qu'on parlait des surpopulations.
Ouais.
Depuis Jean Cartier, la population de ratons laveurs a multiplié par 10 environ. Puis pas rien qu'en forêt.
Ben c'est ça, c'est parce que dans les villes, mettons une ville en 1910 versus une ville en 2010, les animaux sont comme revenus un peu plus urbains. Je me trompe-tu à dire ça?
Non, tu ne te trompes pas du tout. Il y a même une surpopulation en ville. Il y a une chercheuse de l'Université de Sherbrooke qui fait des recherches sur le raton laveur. Sa conclusion, c'est qu'il y a, dans une forêt en plein bois, là, il y a 4 ratons laveurs dans 1 km². À Lévis, dans la banlieue, puis autour de nos maisons, là, c'est 40 au lieu de 4.
Hein?
Dis pas plus. Oui, ils ont de la nourriture. Nourriture pour les oiseaux, nourriture pour les chats, nourriture pour les chiens, le compost. Mm. Ils envoient des plures de patates, puis de carottes, puis tout là-dedans. Ils sont nourris, ils sont gros. Ouais, juste un raisonnement. Écoute, moi, j'aime cette logique-là. Au début, quand Jacques Cartier est arrivé ici, dans Chaudière-Appalaches, dans des belles forêts.
Ouais.
Puis dans ces forêts-là, il y avait 4 ratons laveurs au kilomètre carré, parce qu'il n'y a pas plus de nourriture que ça pour un raton laveur en pleine forêt. Mmh. Qu'est-ce qui est arrivé? On a coupé du bois pour faire des fermes. Tu fais une ferme, tu plantes du maïs puis de l'avoine. À la lisière de la forêt, des ratons laveurs sont morts de rire. Là. Ils sont dans l'avoine, ils sont dans le maïs. On les nourrit, on a fait augmenter la population comme ça.
Le ministère de la Faune est sur le cas un peu. Là. Je pense qu'il pourrait faire plus. Peut-être une petite recommandation de lecture pour les gens qui s'intéressent à ce dont on discute en ce moment, messieurs. Le CAF ou café?
Ah, le CAF, ce livre-là, ben ça c'est un livre pour ceux justement qui font de la déprédation.
OK.
Pour définir comment procéder, c'est quoi les règles, puis il y a même le côté éthique là, de ne pas se faire souffrir inutilement l'animal, puis de le valoriser en autant que possible. Autrement dit, quelqu'un nous appelle pour dire j'ai des castors sur ma terre à bois, ben on va lui dire attends au mois d'octobre, on va t'envoyer un trappeur au mois d'octobre. Parce que là, la fourrure va être bonne, on va pouvoir le récupérer, puis on va pouvoir récupérer la viande pour le manger aussi tant qu'à le capturer.
Mais des fois, j'imagine qu'il n'y a pas moyen d'éviter que de se déplacer tout de suite, puis même jusqu'à l'euthanasie de l'animal. Quel règlement vous régisse là-dessus? Est-ce que c'est vous qui décide? Comment ça fonctionne?
Oui, c'est nous autres qui décident. Je te donne un exemple. Le cultivateur nous appelle, son ponceau est bloqué par les castors, l'eau est en train de passer par-dessus le ponceau, puis tout miner la gravelle qui est autour. Puis, donc, il va perdre 2-3 000 piastres de valeur de ponceau. Dans un cas comme ça, on a le droit de capturer le castor, même en temps défendu.
OK.
Puis là, quand on capture un castor, lui, c'est pas pour le déménager. Là. C'est avec un piège comme en temps normal pour la saison.
Comment se fait jamais qu'on déménage ça? Des castors, c'est toujours une trappe...
Oui. Il y en a qui voudraient qu'on les déménage. Mais un castor, s'il est rendu, je sais, j'en ai pris dans Bréquéville, puis j'en ai pris à Lévis.
Ouais.
Et s'ils sont rendus à Lévis, puis ils sont trop, c'est parce qu'ils n'ont plus de place dans le territoire où ce qu'ils étaient.
C'est ça.
Fait qu'à un moment donné, là, on ne peut pas arriver puis acheter des cages à 500 piastres pour le déménager où ce qu'il vient puis qu'ils vont revenir.
En plus, après ça, mettons, vraiment sortir de la zone, rouler 300 km puis revenir, tu sais, il y a une contingence de faut calculer les coûts économiques, là, les coûts de tout ça. Puis,
Mais même si on le faisait, même si on ne regardait pas l'argent, il est mort d'avance, ton castor, si tu le déménages.
Okay.
Comme le raton laveur. Les ratons laveurs, aujourd'hui, là, ils sont venus au monde à Lévis en dessous d'un cabanon.
Ouais.
Ils ont appris à manger des graines d'oiseaux puis des poubelles. Si tu vas le porter en pleine forêt, il ne sait même pas quoi manger. Puis là, il va rencontrer d'autres ratons laveurs, ils vont le massacrer. Mm. Ils protègent le territoire, ils n'ont pas besoin de vie. Les castors, c'est pareil. Castors, là, dès qu'un intrus arrive dans l'étang d'un autre castor, ils vont le massacrer. Okay. Il va souffrir pas mal plus que pris d'un piège.
Bon. J'ai croisé justement l'année passée, à peu près cette année l'année, dans le parc, un gars qui allait assurément relocaliser un raton laveur, était dans la cage, faisait pitié. Il a pas pris la bonne décision. Quand on a une vermine ou peu importe, un animal qui nous importune, on fait quoi? On appelle le ministère, on appelle tout de suite un trappeur, on vous appelle vous, on fonctionne comment?
Bon, les gens nous appellent directement.
OK. Bon, on va donner les coordonnées de toi, Michel, puis de Jean-Marc, pour finir en beauté. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui a un problème directement, puis qu'il va être bien content qu'on fournisse la façon de vous atteindre.
Bon, ben, je vous donne les deux numéros de téléphone. Pour Jean-Marc Couture, c'est dans le 418-761-0568. Puis dans mon cas, Michel Gamache, ben, c'est dans le 418 aussi, 655-83-82.
655-83-82, c'est noté. Merci. Ouais. Puis on termine pour montrer votre compétence. L'histoire du jus de tomate avec les moufettes, vous en avez vu deux, trois. C'est pas ça qui marche. C'est quoi la recette pour enlever l'odeur de moufette sur un chien qui s'est fait arroser ou nous-mêmes?
Un litre de peroxyde d'hydrogène.
Okay.
Un quart de tasse de bicarbonate de soude.
Ouais.
La petite vache, là.
Ouais.
Une cuillère à thé de savon à vaisselle parfumé.
OK.
Puis deux cuillères à thé d'essence de vanille.
Bon, that's it.
Ça enlève bien pas toutes les senteurs, mais ça va en baisser pas mal.
Ah, puis ça sent même pas à moufette, hein, quand c'est concentré, ça sent le produit chimique. Pour au moins atténuer ça un peu, puis revenir au pire de l'odeur de moufette.
La petite vache, le bicarbonate, là, ouais. Même les femmes mettent ça dans le réfrigérateur pour enlever les senteurs.
Les femmes? Jean-Marc?
Ben oui.
Toi aussi, t'en mets.
Moi, j'ai pas le choix, je suis
vieux macho. Merci, messieurs. C'est merveilleux de vous entendre. C'est le fun. En gré, on se reprend dans deux semaines. Attention à vous autres.
OK, salut. Bonne fin de journée.
Parfait, à la prochaine.
Bonne trappe, mes amis.